Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du ski alpin. Le ski alpin est un ensemble de disciplines du ski qui se pratiquent dans un contexte de loisirs ou de compétition. C'est un sport olympique depuis 1936. Les premiers championnats du monde remontent à 1931 et la Coupe du Monde est née en 1967. Toutes ces compétitions se déroulent sous l'égide de la Fédération internationale de ski. La dénomination alpin permet de faire la distinction entre les principales familles de pratiques du ski, le ski alpin, le ski de randonnée et le ski nordique. Elle est par ailleurs souvent utilisée pour désigner le ski de piste, qui n'en est qu'une composante. Le principe de gravir un sommet pour le descendre à ski le plus rapidement possible a été imaginé à maintes reprises au fil des années. Une grande descente est organisée en Californie, en mars 1854, selon le journal Nevada. Il est également question d'une course de descente à la porte, mise sur pied en 1866 par les chercheurs d'or émigrés, pour la plupart venant de Norvège. En 1905, les Autrichiens organisent une descente dans le cadre des championnats du Tyrol, à Kitzbühel. Le ski alpin est ensuite organisé comme un véritable sport par un Anglais, Arnold Lunn, qui fait des premiers essais en 1897 à Chamonix, alors qu'il n'a que 10 ans. Richardson, le père du ski britannique, fonde en 1903 le Ski Club of Great Britain, qui initie les élèves des public schools britanniques au sport d'hiver dans les Alpes. Le ski alpin est déjà au programme. La Roberts of Kandahar Challenge Cup est une compétition de ski alpin mise en place en 1903. Dans la grande tradition britannique, ces épreuves sont réservées aux seuls Britanniques. Ainsi, dès l'après-Grande Guerre, Arnold Lunn met en place dans les Alpes les premiers championnats britanniques de ski alpin. En France, le ski alpin arrive en 1897 sur le mont Guillaume, dans les Hautes-Alpes, sous l'impulsion du 28e bataillon des chasseurs alpins. Le ski est d'ailleurs introduit dans l'armée tout au début du XXe siècle. Et c'est en Suisse, à Davos, que sont organisés les premiers concours internationaux de ski. Ces derniers, qui ont eu lieu en 1902 et 1907, sont alors réservés uniquement aux militaires. La folle aventure du ski dans les Pyrénées débute, elle, en 1903, avec le premier tour complet du pic du Midi d'Ossau. Les premières installations rendent la pratique du ski dans les Pyrénées plus accessible, avec pour commencer Luchon en 1912 et l'inauguration du petit train à crémaillère qui monte à 2000 mètres sur le plateau de Superbagnères. C'est la première remontée mécanique des Pyrénées. En 1913, à Font-Romeu, le Grand Hôtel ouvre ses portes à 1600 mètres d'altitude. Jusque dans les années 1930, le ski soit réservé à une poignée de privilégiés, tête brûlée, jusqu'à ce que la route d'Aubonne soit goudronnée jusqu'au col de l'Aubisque. Il faudra attendre 1929 pour assister au premier championnat d'Autriche, 1930 en Suisse et 1931 en France. Toutes ces dates concernent exclusivement la descente. Le premier slalom est disputé le 21 janvier 1922 à Muren en Suisse. C'est alors plus une épreuve de style que de vitesse. Parmi les grands initiateurs du ski alpin, citons l'Autrichien Matthias Darski, qui publia en novembre 1896 un ouvrage de technique de ski dans lequel il reprend essentiellement les anciennes techniques norvégiennes, ski de fond et télémarque principalement. Darski prône notamment l'utilisation d'un seul grand bâton, comme le faisaient jadis les Norvégiens, alors que l'usage des deux bâtons se généralise en ski de fond dès la fin des années 1880. En 1924, sont créées la Fédération internationale de ski et la Fédération française de ski, année où sont organisés les premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix. Toutefois, ces organismes ne reconnaissent pas le ski alpin et le terme ski est réservé exclusivement et uniquement pour désigner le ski nordique. Seul le ski nordique est d'ailleurs présent au programme de ces premiers rendez-vous internationaux qui furent reconnus plus tard comme les premiers Jeux olympiques d'hiver. L'anglais Arnold Lunn présente au congrès de la Fédération internationale de ski à Saint-Maurice en 1928 un projet d'intégration du ski alpin encore très largement inconnu même dans les milieux sportifs. Cette motion est repoussée en raison d'une opposition catégorique des pays nordiques. Mais Lunn ne se décourage pas et présente une nouvelle demande en 1930 à Oslo. Les pays nordiques se montrent moins catégoriques et autorisent la création de compétitions tests, mais sont toujours hostiles à l'admission du ski alpin au programme olympique. Lunn peut ainsi organiser la première édition des championnats du monde à Muren en 1931, sous l'accord de la Fédération internationale de ski. Le Comité international olympique, le CIO, suit et intègre finalement le ski alpin aux Jeux olympiques d'hiver de 1936 à Garmisch-Partenkirchen. Seules les épreuves du combiné alpin, descente et slalom, donnent cependant droit à des médailles olympiques. Les titres et les médailles d'or reviennent à des Allemands et à des Norvégiens. Et le Français de Megève, Émile Allais, termine troisième du combiné, ce qui lui rapporte la médaille de bronze. Les premières écoles de ski alpin sont mises en place en Suisse et en Autriche au début des années 1930, et dans le monde germanique, en Allemagne, Suisse et surtout Autriche, avec sa mecque de l'Arlberg, qui domine sans rival le ski alpin jusqu'au milieu des années 1930. L'Arlberg est un col d'Autriche situé à 1800 mètres d'altitude, séparant le Vorarlberg du Tyrol. La méthode de ski de l'Arlberg, codifiée par Hans Schneider, est la référence. Elle est basée sur le virage chasse-neige. Ces virages étaient faciles à réaliser, mais cassaient la vitesse. Les grandes vedettes du ski de l'époque sont les Autrichiens et les Suisses. Parmi les innovations techniques importantes, citons pour l'époque les premières fixations modernes, qui datent des années 1933-1934. Elles sont essentiellement mises au point en Autriche et en Norvège. Le premier téléski à enrouleur est mis en service en Suisse, à Davos, le 24 décembre 1934, par l'ingénieur Ernst Constant. Parmi les pionniers français, on peut citer le téléski de Charles Rossat au col de Porte en février 1936. Bien que le ski soit arrivé très tôt dans les Alpes françaises, l'émergence du ski alpin comme une discipline sportive à part entière et autonome sera lente en France, alors qu'elle est déjà très populaire dans les Vosges alsaciennes, qui faisaient alors partie de l'Empire germanique après la guerre de 1870. En 1933, un premier centre de formation des moniteurs se crée au Mont-Revard, en Savoie, animé par Roger Frison-Roche. On y enseigne, au départ, la méthode de l'Arlberg. La Fédération française de ski prépare depuis plusieurs années sa revanche avec une stratégie concertée de popularisation du ski français. L'offensive repose sur une technique française de ski, révolutionnaire et concurrente de la méthode autrichienne. Elle est mise au point par Émile Allais et, paradoxalement, l'Autrichien Toni Szilos, entraîneur de l'équipe de France, signe de la tutelle germanique jusqu'à cette époque sur ce sport. Cette technique très innovante, jugée plus souple, plus élégante et plus efficace, est basée sur le parallélisme des skis, la plongée en avant, l'étude systématique des dérapages, indispensable au virage rapide. La technique française est popularisée par l'École française du ski, l'ESF, créée en 1937 par Émile Allais, avec le soutien du ministre des Sports, Léo Lagrange. Les victoires françaises au championnat du monde de ski alpin en 1937, Émile Allais, et 1938, James Couté. Les films aussi de Marcel Ichac, films pédagogiques, de compétition, de propagande, de touristique, tentative de briser également la domination germanique dans le cinéma de montagne. La France innove également en matière de matériel. Abel Rossignol invente le ski contre-collé en 1936 et aussi le ski lamellé contre-collé en 1945. C'est l'association de lames de bois par collage de bois dur, léger et souple avec du frêne sapin ou frêne bouleau ou frêne hickory. L'essor du ski est rapide en France à la fin des années 1930. La Fédération française de ski passe de 7000 adhérents en 1930 à près de 50 000 en 1939. Et en 1938, la France compte 6 téléskis et 11 téléphériques. Cet essor est interrompu par la Seconde Guerre mondiale. Dans les compétitions internationales, la technique française de ski domine cependant jusqu'au début des années 1950, avec également le skieur Henri Oreiller. Après un passage à vide au milieu des années 1950, le ski français va connaître un deuxième âge d'or sous la tutelle de l'entraîneur Honoré Bonnet avec des champions tels que Jean Vuarnet, Jean-Claude Killy, Guy Périlla, les sœurs Guatchel. La France domine la discipline tout au long des années 1960. Au championnat du monde de ski alpin de Portillo, au Chili, en 1966, l'équipe de France de ski alpin remporte 16 médailles sur 24. Une apogée consacrée dans les Jeux olympiques d'hiver de 1968 à Grenoble, marquée par les victoires de Jean-Claude Killy en descente, slalom et géant, et de Marielle Guatchel en slalom, la skieuse de Val d'Isère ayant auparavant déjà enlevé plusieurs titres mondiaux olympiques en 1962, 1964 et 1966. La France conserve alors une avance technique dans le domaine du ski alpin. En 1955, Georges Salomon, qui fabrique des quarts vissés, invente la fixation de sécurité pour Émile Allais, la squad. Jean Vuarnet remporte la médaille d'or de descente aux Jeux olympiques d'hiver de 1960 aux États-Unis à Squaw Valley, grâce notamment à deux innovations majeures. D'abord, le ski métallique, le Rossignol Allais 60, conçu par la société Rossignol avec Émile Allais. Ce ski préfigure le ski moderne avec des quarts cachés et une semelle polyéthylène. C'est le premier ski de type sandwich avec un noyau en bois et deux lames de zikral autour. Ensuite, l'invention de la position de l'œuf, qui, le skieur étant replié sur lui-même, améliore l'aérodynamisme, une position par la suite unanimement adoptée par tous les skieurs. Le succès du ski français en compétition, le développement des loisirs et les préoccupations d'aménagement du territoire vont amener au développement du ski populaire. L'État met en œuvre le plan Neige de 1961 à 1971 pour développer le tourisme de montagne. Comme son nom l'indique, le ski alpin est très populaire dans les pays alpins, mais également en Scandinavie. Depuis plusieurs décennies, le nombre d'adeptes est en augmentation au Japon et en Amérique du Nord. Dans les années 1960-1970, les États-Unis vont prendre le relais de la France en termes d'innovation, avec les premiers skis en fibre de verre. Dès 1960, Bob Lange invente la coque en plastique pour les chaussures de ski en résine, époxy, en 1964. Enfin, Sherwin Popper, en Californie, invente le snowboard. Dans les années 1980, les skieurs et skieuses suisses ont remporté de nombreuses courses. Les doublés à l'arrivée n'étaient pas rares. En 1985, 86, 87 et 89, les trois premières places du classement général de la Coupe du Monde, lancées en 1966 par le journaliste français Serge Lang, avec l'appui des grands coureurs de l'époque et des entraîneurs comme Honoré Bonnet, le français, et Bob Beatty, l'américain, étaient occupées par des Suisses. En 1984, 87, 88, 90, le Suisse Pirmin Zurbriggen gagnait le classement général de la Coupe du Monde masculine. Durant la saison 1988-1989, Vreni Schneider gagnait 14 courses, un record battu 30 ans plus tard par l'américaine Michaela Schifrin, qui remporta 17 victoires durant la saison 2018-2019. De 1981 à 1995, le classement général de slalom fut remporté 12 fois sur 15 par une Suissesse, donc 5 fois par Erika Hess et 6 fois par Vreni Schneider. Le point culminant de cette domination furent les championnats du monde de ski alpin 1987 à Crans-Montana, où les Suisses remportèrent 8 courses sur 10, 14 médailles sur 30 et les 4 premières places de la descente masculine avec Peter Müller, Pirmin Zurbriggen, Karl Alpiger et Franz Heinzer. Au XXIe siècle, la durée de la saison hivernale et de la saison de ski a commencé à diminuer dans des stations de sports d'hiver d'Europe et d'Amérique du Nord, en raison des effets du réchauffement climatique, et les stations de ski ont donc de plus en plus recours à l'enneigement artificiel, car le changement climatique réduit la durée des chutes de neige naturelles. En Europe, la moitié de la masse glaciaire des Alpes a fondu, et l'Union européenne des géosciences a évalué en 2017 que le manteau neigeux des montagnes pourrait y diminuer de 70% d'ici 2100. Toutefois, si l'homme parvient à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, la réduction du manteau neigeux serait limitée à 30% à la fin du siècle. Aux États-Unis, par rapport à 2017, la durée des saisons de ski devrait diminuer de plus de 50% d'ici à 2050 et de 80% d'ici à 2100 si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel. Environ la moitié des 103 stations de ski du nord-est des États-Unis exploitées en 2012 pourraient ne pas être en mesure de maintenir une saison de ski économiquement viable d'ici 2050. Les courses d'un jour, comme celles proposées aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, sont parfois injustes. Afin de pallier cette carence, la Fédération internationale de ski a soutenu le projet de Coupe du Monde, lancé en août 1966 par Serge Lang. Des points étaient attribués au premier des courses retenues dans le calendrier international et un classement général récompensait ensuite le coureur le plus complet de l'hiver en fin de saison. Elle intégra, au cours de son histoire, l'Alberg, Kandahar et les autres classiques comme le l'Oberhorn de Wengen dans l'Oberland bernois suisse ou le Hahnenkamm de Kitzbühel dans le Tyrol autrichien. Les étapes françaises les plus connues sont celles de Val d'Isère avec le Critérium de la Première Neige, de Chamonix ou de Megève avec le Grand Prix Émile Allais.
C'était la chronique de Gilles Labouroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.